inédit de la Grande Guerre.
40 épisodes collectés par les archives départementales de la Côte d'Or
et lus par leur directeur, Édouard Bouillet.
Épisode 24.
Verdun.
Verdun, enfer de juillet 1916. Cette fois, André Bitaud est à pied d'œuvre et ce qu'il voit déjà est conforme à l'idée qu'il s'en fait. Avant l'horreur des combats, il découvre le tunnel de Tavannes par lequel on accède au champ de bataille.
Tout ce monde pataugeait dans une boue noire, liquide et gluante, sur quoi surnageaient des tas d'ordures grouillantes. Tous les besoins étant satisfaits sur place, un air infect se dégageait de ce cloaque. On y respirait un air empoisonné par des émanations de composition et de décomposition chimique, où dominaient des relents d'éther venant des postes de secours et des relents d'ammoniac qui piquaient les narines. En résumé, c'était un bouquet à odeur indéfinie, composé de relents de bouches d'égout, de dépôts d'ordures et de latrines, activés par ces émanations d'ammoniac et d'effluves d'éther. Les ombres s'agitaient sur les parois humides, sur lesquelles parois se condensaient les évaporations putrides, sulfureuses et chlorhydriques, qui, ajoutées aux odeurs d'une humanité qui se néglige, formaient comme un voile transparent qui masquait à demi la lumière. Le tout aurait pu former un ensemble pour le prélude à une danse macabre. Et des compositeurs auraient pu venir ici s'inspirer pour la composition d'une marche funèbre. Voilà ce que représentait ce bourbier pour ceux qui l'habitaient, passagèrement et en permanence. Et pourtant, ceux qui étaient en première ligne, là-haut, face au fort de Vaux, en rêvaient comme à un paradis.
Verdun, bois de la Louffée, près du fort de Vaux, trois journées en enfer en juillet 1916, décrite par André Bitaud.
Jean Père, un mitrailleur, était masculé par un éclat d'obus, douleur intolérable, et peut-être affecté par la perspective d'une vie diminuée et sans joie, s'étirait un coup de pistolet dans la tête. Pendant trois ou quatre jours, nous allons vivre des drames aussi monstrueux. Sur notre droite, là-bas, vers la batterie de Donlou, une voix formidable qui parfois domine le fracas, appelle désespérément les brancardiers, sa voix toute d'angoisse et de douleur crie qu'il n'a plus de jambes. Voix lamentable, désespérée, douloureuse, semblant d'une façon singulière prendre le ton d'une protestation, d'une accusation de la férocité humaine. Voix semblant jeter l'anathème sur tous les responsables de cette tuerie. Je me souviens de ce pauvre Marbeuf blessé, tout gémissant, se traînant derrière nous, un muscle du bras déchiqueté, détaché, et pendant sur la main, un œil désorbité se balançant sur la joue, faisant déclencher sur nous des rafales de mitrailleuses, le menaçant nous-mêmes, barbares que nous étions, parce qu'il nous faisait repérer. Des ravins environnants, de partout, des appels au secours fusent, des plaintes si lamentables, si malheureuses qu'elles suscitent une infinie pitié, pitié mêlée d'appréhension, hélas, bien souvent justifiée. Tout à côté, une nouvelle plainte angoissée et douloureuse se fait entendre, ces caroussins, comme lardés d'éclats d'obus, qui lui aussi exhale sa douleur. Deux brancardiers se sont trouvés là, sous le tir des mitrailleuses. Ils ont quand même réussi à l'emporter. Les pauvres, ils n'iront pas loin, ils auront à peine fait 200 mètres qu'une rafale va tuer les deux brancardiers et achever le blessé. Deux ou trois jours après, quand nous fûmes relevés et que nous courions affolés vers le tunnel, parmi les débris de toutes sortes, branches, troncs, troncs d'arbres cisaillés, sacs, fusils et cadavres jonchant le sol du bois la Louffée, que je passais le long d'un boyau moitié comblé, je vis, dans la demi-obscurité, gisant mort et moitié enterré, les deux brancardiers ayant encore en main les poignées de brancard, et, dessus, étendus, mort lui aussi, le blessé.